Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce cinquième dimanche, après la Pentecôte, il nous est donné une très grande difficulté, puisque nous sommes absolument au cœur même de la foi catholique, et donc de la religion catholique, et donc de la vérité sur la volonté de Dieu. Puisqu'il n'y a qu'une seule religion que Dieu a pu inspirer dans sa perfection, les autres religions ayant été selon le cœur de l'homme, selon ce qu'il recherche, et à force d'inventer, les hommes ont établi des religions particulièrement fausses et mauvaises. L'inspiration même du fait que Dieu existe n'est pas la marque d'une vraie religion. L'inspiration même qu'il y a une vie après la mort n'est pas non plus une marque d'une vraie religion, bien qu'elle nous permette d'en écarter certaines qui considèrent qu'on se dissout, qu'on n'existe plus, qu'on n'a plus d'existence personnelle après la mort, ou qui nous représentent des réincarnations, alors qu'il n'y a qu'une seule vie sur terre. Car nous nous sommes créés, immortels, et notre âme, ainsi, survit à la déstructuration de notre corps. Et voilà donc qui nous est dit aujourd'hui une parole de la religion fondamentale, qui est en morale simple, puisque saint Pierre, dans ses épîtres, dans ses lettres, il n'en a fait que quelques-unes, trois, tandis que saint Paul est cité bien plus souvent. Eh bien, écoutons bien saint Pierre ce soir. Faites le bien, évitez le mal. C'est extraordinaire de simplicité. Et il va plus loin, puisqu'il nous dit une chose absolument évidente. Il nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, mais au contraire de bénir. Là, cela devient beaucoup plus compliqué, puisqu'il ne fait que reprendre ce que Jésus, la parole éternelle du Père, nous a révélé. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Alors là, nous sommes particulièrement ennuyés, car il y a une grande réalité naturelle dans notre nature, pas seulement de discerner qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et que finalement on nous ment sur l'évolutionnisme, sur le fait que nous soyons du hasard et de la nécessité et de la sélection naturelle à travers des milliards d'années, sur la déesse Terre, religion qui est de plus en plus à la mode de nos jours, puisque le prince Charles lui-même de la famille d'Angleterre nous dit que si on n'agit pas d'ici 18 mois, la planète va mourir, nous sommes tous perdus. Donc c'est une religion à dogme d'une manière extrêmement pressante et obligatoire. Mais voilà que la vraie religion, elle, nous dit d'atteindre la justice. Et qu'est-ce que la justice? Notre Seigneur nous dit que nous devons surpasser les scribes et les pharisiens. Qu'est-ce que les scribes et les pharisiens enseignaient? Sur le bien et sur le mal. Eh bien, la justice est une vertu, est une force de l'âme humaine qui rend ce qui est dû. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la justice, c'est l'équilibre, la balance entre nos droits et nos devoirs. La justice, c'est de respecter notre propre corps, de respecter notre âme, puisque Dieu nous l'a donnée. mais avec l'obligation d'en bien user. La justice consiste à remercier ses parents, parce que même s'ils ne sont pas des saints, et s'ils n'ont pas été cruels avec nous et des parents monstrueux, ils se sont occupés de nous. À des moments, à des années, où nous étions d'une fragilité extraordinaire. Et qui, si nous ne mangions pas régulièrement toutes les 4 heures, presque, n'est-ce pas? Eh bien, on serait morts, déshydratés, affamés. Si nous n'avions pas été lavés, nous serions morts de diverses maladies. Tout cela, c'est de la justice, figurez-vous. On a une autre justice, c'est de vivre en paix, en bon ordre, dans la tranquillité de l'ordre, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos cousins et nos cousines, nos oncles et nos tantes, avec nos voisins et avec des inconnus. Dans la rue, on se dit bonjour, plus ou moins, on se souhaite une bonne journée. Mais si nous étions dans un village, même à un inconnu, on dit bonjour. Peut-être pas à Paris, mais ailleurs, oui. On ne se gifle pas. On ne se donne pas un coup de pied dans le tibia, comme ça, pour voir ce que ça fait. La personne se plie en deux. C'est la justice. Et cette justice, elle est déclinée par les 10 commandements. Les 3 premiers commandements, c'est la justice vis-à-vis de Dieu. On l'appelle plus particulièrement la piété. Parce que Dieu nous a créés. Si on a les yeux en face des trous et les oreilles sur les côtés, c'est parce qu'un être intelligent l'a réalisé. Si vous trouvez un trombone dans le désert, si vous trouvez un smartphone sur le trottoir, vous ne vous dites pas, tiens, le soleil a frappé tellement fort que des minerais de fer se sont enroulés sur eux-mêmes. Tiens, il y a un platane qui a poussé un smartphone qui est tombé par terre. Tout ça, ce sont des réalisations intelligentes. Et donc, nous, avec notre corps si complexe, nous sommes le résultat d'une action, d'un être intelligent qui a une volonté très profonde. Et nous devons entrer en rapport avec lui, nous devons savoir s'il nous aime, si nous devons l'aimer. C'est ce qu'on appelle la vérité. Mais qui dit vérité dit justice. On doit l'adorer, on doit respecter son nom, et on doit s'organiser entre nous pour ne pas travailler et prier un jour par semaine. Et là, la religion naturelle, elle est blessée de nos jours, puisque ce rythme de la semaine humaine que tout le monde reconnaît, eh bien, Dieu en demande un jour. Et si on ne le comprend pas, qu'on doit se reposer et vivre en paix, en famille, en société, en arrêtant d'essayer de gagner de l'argent, une fois par semaine, Dieu nous le rappelle par des envoyés, des hommes, des femmes, pour entretenir cette religion naturelle. Parmi les hommes qui ont eu ce contact direct avec Dieu, on compte Abraham. Et Dieu lui a demandé d'être fidèle dans sa religion et dans sa prière. Mais voilà qu'aujourd'hui, Saint-Pierre et notre Seigneur nous demandent une plus grande justice. La justice du pardon, de la tolérance et de la patience. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puisque Dieu lui-même, lorsqu'il avait promis de venir sur terre, et qu'il l'a fait en naissant de la Vierge Marie, qu'il a passé 30 années dans un village à Nazareth, et qu'ensuite il s'est révélé comme le Verbe de Dieu, et que petit à petit il a fait tellement de miracles jusqu'à des résurrections de morts qu'on ne pouvait pas être indifférent surtout lorsqu'on connaissait par cœur les révélations, les passages de la Bible, comme les scribes, ceux qui écrivaient, qui savaient non seulement lire, écrire, mais qui scrutaient toute la Sainte Écriture, les pharisiens qui étaient des juifs observants. Voilà qu'il est arrêté et crucifié parce que finalement il dit qu'avant qu'Abraham fût, il est, qu'il est Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait de Dieu lorsqu'il est venu sur terre? On l'a tué. Alors, est-ce que cela nous devait un deuxième péché originel? Est-ce qu'on allait être deux fois puni? Eh bien non. Jésus sur la croix dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il dit à sa propre mère qui assiste à son supplice, « Femme, la nouvelle Ève, Jésus ne se permet pas de parler comme ça à sa mère. Femme, la noblesse de la femme, voici ton fils. » Et il dit à Jean, « Voici ta mère. » Vous pensez bien que notre Seigneur, à ce moment-là, n'était pas là pour régler la suite pour sa maman, pour qu'elle soit accueillie quelque part. Ses paroles sont divines et fondatrices, d'où notre piété vis-à-vis de cette femme, qui a dû nous aimer comme ses propres enfants, alors que nous avons tué son fils. Mais que nous demande ce soir Saint-Pierre et notre Seigneur? De pardonner. De pardonner sans cesse. Et de ne pas souhaiter que ceux qui font le mal soient punis absolument. C'est-à-dire, et là, c'est moi qui fais le scribe et l'interprète, nous ne devons pas, parce que nous sommes de la vraie religion, souhaiter que les pécheurs et que ceux qui sont nos ennemis et qui nous font du mal soient punis définitivement et qu'ils soient damnés, qu'ils restent dans leur péché et leur malice et qu'ils meurent ainsi. Et que dans les révélations de la vraie religion, n'en déplaise à certains prêtres ou même évêques, il y a un état d'âme de haine définitif au moment de notre mort, lorsqu'on refuse l'amour de Dieu, qu'on appelle l'enfer. Nous ne devons souhaiter à personne d'être damné. Et c'est là l'ultime pardon, car en stricte justice, nous devrions dire à Dieu, « Seigneur, appliquez votre justice, punissez ceux qui me mentent, punissez mon frère qui veut une trop grande partie d'héritage, qui détruit la paix dans notre famille, qui fait une procédure parce qu'il estime que le partage de la succession n'est pas juste, qui n'a pas été présent aux obsèques, qui nous insulte, qu'il soit puni, qu'il soit damné. » Que ceux qui, sachant que Vincent Lambert n'était pas en fin de vie, mais était paralysé, dans cette querelle de médecins entre eux, de professeurs en médecine, de psychologues, de juristes, quand la Sainte Église s'est prononcée pour dire « mais laissez-le en paix, mettez-le dans une structure de soins adaptée à son état », et cet acharnement étrange jusqu'à, même aujourd'hui, dans une tribune de 40 députés d'Assemblée nationale, nous dire « le corps humain est à la disposition de la personne humaine, elle en fait ce qu'elle veut jusqu'au suicide, mais surtout jusqu'à l'avortement. » Et ils se plaignent qu'il y ait 125 lieux d'avortement qui aient fermé récemment, enfin ces dernières années. D'abord parce que, d'un point de vue budgétaire, ça coûte trop cher et on ferme les unités de maternité et de gynécologie et aussi donc d'avortement. Mais aussi parce qu'il y a de moins en moins de médecins qui soient intéressés à aller chercher l'embryon, surtout lorsqu'il devient trop gros pour être aspiré et qu'on doit lui couper la tête et les jambes. Alors que faire? Vous sentez bien que je suis de l'Ancien Testament et que j'ai envie de punir ceux qui ont tué Vincent Lambert et que j'ai envie de rejoindre le docteur Dor pour prier le chapelet devant des cliniques ou des hôpitaux où on tue des enfants. Mais voilà, mon grand problème, c'est d'être catholique. Je dois prier pour mes ennemis. Je peux me défendre. À celui qui m'attaque, celui qui attaquerait mon pays, je peux prendre les armes. Mais je dois véritablement garder au fond du cœur une prière pour ceux qui veulent ma mort, pour ceux qui tuent les enfants et les femmes. On ne peut être un enfant de Dieu que si on prie pour ses ennemis, même dans le martyre. Alors il faut bien garder ça dans notre tête. Parce que si à l'avenir il y a à nouveau des guerres de religion, nous ne pourrons pas être comme les autres. Si un islamiste vient pour vous tuer, vous devrez encore prier pour lui et qu'il se convertisse, qu'il croie en Jésus-Christ mort et ressuscité. Non seulement ceux qui sont de musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, en ce moment vous devez prier pour qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu. Mais en plus, s'il y a une guerre de religion, vous devrez encore prier pour eux, tout en ayant vos armes à la main pour défendre vos familles. Comment faire ça? Eh bien, le Christ nous y oblige et il est Dieu. Voilà la raison pour laquelle les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont tendues vers leurs prières, mais la face du Seigneur est tournée contre ceux qui font le mal. Ultimement, pour consoler ceux qui sont un peu de l'Ancien Testament plus que du Nouveau, s'ils résistent à la grâce, eh bien ils se damnent. Et pourtant, nous, fils de Dieu, le Père, frères de Jésus-Christ, enfants de la Vierge Marie, nous devons prier pour que le plus d'âmes possible se sauvent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.